chacun demande à l'autre « Qu'est-ce que tu crois ?» quand tu dis « Je crois ». Non pas en se contentant de répéter les formules que nous avons apprises.
Bocquin, abbaye de gauchiste, un documentaire de Yves Deloison et Anne Fleury.
En proclamant le credo.
Mais seconde partie, du bouillonnement contestataire à l'explosion.
Qu'est-ce que je mets sous les mots? Qu'est-ce que véritablement je crois?
Mai 68 est passé par Bocquin. Bernard Béret, prieur de l'abbaye, a transformé le lieu en laboratoire. Pour cela, il rassemble laïcs et religieux. Les célébrations du dimanche attirent les foules, la colère de l'épiscopat gronde. En 1969, la nouvelle tombe, il nous raconte.
En 69, je suis allé à Rome voir le père général avec le projet de lui proposer une solution pour éviter que les tensions deviennent trop fortes. Il m'a dit, il n'y a aucune solution à me proposer parce que vous n'êtes plus prieur de Bocquin. Je dis, ah bon, je ne suis plus prieur. Non, depuis l'instant où je viens de vous le dire, vous n'êtes plus prieur. Et puis je suis rentré en France et là, dans le journal Le Monde, il y a eu juste un entrefilet qui disait, Bernard Béret, anciennement prieur de Bocquin, vient d'être démis de toutes ses fonctions. Et c'est ça qui a mis le feu aux poudres.
Quelle a été votre réaction en lisant ce télégramme?
Eh bien, ça a tout d'abord été une réaction de surprise, très grande.
Frère François, membre de la communauté de Bocquin, 20 septembre 1969, Bretagne Actualité.
Ça a ensuite été une réaction d'une certaine tristesse, car nous n'avons absolument pas compris pourquoi. Ce qui me semble n'est pas acceptable, c'est le refus de dialoguer.
Donc il rentre, hein, Bernard Béret, à la ville Bocquin, mais il doit quitter les lieux à la fin octobre.
Béatrice Lebel, historienne.
Et on lui demande de choisir quelqu'un pour le remplacer. Au départ, il ne veut pas trop. Puis au fond, il y a une personne qu'il connaît, avec qui il a beaucoup travaillé, notamment sur le Conseil du Vatican II, Guy Luzzenski. Pour lui, Guy Luzzenski est le seul qui pourra sauver Bocquin. Alors, il est nommé prieur de l'abbaye de Bocquin. Il a pour mission de ramener la communauté monastique à Bocquin. En effet, c'était devenu, comme disait le père Corentin, c'était devenu une aimable colonie de vacances. On mange à toute heure, on se lève quand on veut. Enfin voilà, donc c'est beaucoup de jeunes. Il faut que Bocquin redevienne un monastère.
Rome espérait que ça résoudrait le problème. Mais lui, au bout d'un certain temps, moi j'étais donc, je ne vivais plus à l'abbaye, je vivais chez des amis. Il a pris contact avec moi en me disant « il faut absolument que tu reviennes parce que je ne peux pas tout seul me démerder de la situation ». Et donc, je venais une fois de temps en temps, le dimanche, pour lui donner un coup de main. Et un dimanche, un monsieur me dit « Est-ce que je peux vous parler à la fin de la cérémonie ?» Je dis « Bien sûr ». Alors il vient dans mon bureau et il me dit « Je ne devrais pas être là, mais il y a une association de cathos qui a décidé de vous assassiner. J'arrive d'Australie et on m'a contacté pour vous assassiner. » Et donc, j'ai vécu sous la menace d'attentat. Et sur la route qui conduit à Bocquin, ils avaient peint avec de la peinture très résistante à la pluie. Bocquin égale bordel, Béret égale Satan, la Sainte Inquisition veille. Et ils avaient peint un œil énorme pour désigner la Sainte Inquisition. C'était un groupe qui s'était constitué pour se débarrasser de moi. Et alors j'avoue que ça a eu une influence assez importante dans ma vie, parce que ça m'a amené à me poser la question, pourquoi je suis vraiment prêt à mourir ? Il y a des causes pour lesquelles je suis prêt à mourir, mais pas pour l'Église catholique romaine. Donc...
Journal télévisé, 4 novembre 1969.
L'abbaye de Bockheim, dans les Côtes-du-Nord, a un nouveau prieur. Le père Bernard Béret a présenté lui-même son successeur aux fidèles. Il n'est pas question, comme on l'avait dit, que l'ancien prieur quitte la France pour Rome. Il n'est pas non plus exclu de l'abbaye de Bockheim. Il va continuer à y séjourner comme simple moine pour y poursuivre des recherches théologiques.
Donc là, on est sur la période de 70-73 que vous qualifiez de, oui, d'apogée. Parfois, il y a jusqu'à 1000 personnes.
Voire même plus. Ah oui, c'est énorme. Mais on a quand même une modification du cercle. À partir de 1970, Bockheim va rentrer quand même dans cette mouvance des chrétiens de gauche, voire d'extrême gauche, et notamment, je dirais plutôt, des revues comme Vie Nouvelle ou Témoignages Chrétiens. Ce que souhaitent beaucoup ces chrétiens, c'est quelque chose de plus communautaire, de plus égalitaire. Et pour beaucoup, la dimension politique doit aussi être présente. Parce que jusqu'à présent, Bernard Béret n'avait pas cette ouverture politique. Et donc, au travers de l'Association culturelle de Bockheim, Bernard Béret va définir un programme autour de 3 thèmes, christianisme lyrique, donc là qui fait référence à tout ce qui est liturgie, enfin la manière de célébrer les offices. On a liturgie critique, on doit avoir cette posture-là. Et la troisième dimension, qui va être la plus difficile à mettre en place à Bockheim, c'est le christianisme politique. Par exemple, en 1971, décembre, une opération va être menée pour soutenir le Bangladesh, qui souffre avec la guerre, enfin qui souffre énormément. Et Bernard Béret va décider d'organiser donc un jeûne avec cette fois-là une dimension politique.
Souvent, pour les gens qui arrivaient pour la première fois, c'était l'occasion de parler de leurs engagements. Il y avait des diversités d'engagement.
Odile Durand.
Alors, on a parlé...
Née en 1938.
De l'engagement pour le tiers-monde à l'époque. Hein. Pour l'écologie, ça commençait. Hein. Une autre assiette, je l'ai vécu à Bockheim. Qu'est-ce qu'il y a eu sur l'économie, sur l'économie sociale, sur l'économie solidaire. Avec mai 68, il y avait la libération sexuelle, il y avait toutes ces questions-là, mais il y avait aussi des mères de famille qui se posaient tous les jours des problèmes par rapport à leur vie de couple, par rapport à leur vie de famille. C'était pas des grands slogans, c'est ça que je voulais dire. Moi, j'étais surtout engagée dans la solidarité internationale. D'abord pour le Chili et ensuite pour la Palestine. Et ce fondement-là, je l'ai trouvé à l'abbaye. Parce que on parlait des grandes personnalités qui venaient à l'abbaye. Moi, j'ai rencontré Casalis pour la première fois, le pasteur Casalis, première fois à Bockheim. C'était un homme d'une audace et d'une foi tenace et qui défendait la libération des plus pauvres dans les communautés d'Amérique latine à travers la théologie de la libération. Mais quand on parlait du poids politique, il n'hésitait pas à remuer le cocotier, si on peut dire, au niveau de la conférence des évêques, au niveau du Vatican. Il y avait vraiment des grands mouvements de fond. Je me souviens de Bernard Béret qui soutenait les objecteurs de conscience. On n'a pas parlé de non-violence, mais c'était très important. Le mouvement du MAN, qui est parti de mouvement chrétien d'ailleurs, un mouvement non-violent. Et donc Bernard Béret les a aidés. Dans leur grève de la faim, il a fait la grève avec eux. Et ça, c'est un moment extrêmement marquant. Et ce qui était surprenant, c'est qu'au bout du compte, il a dit « Mais cette assaise-là m'a servi, j'ai écrit mes livres pendant ce temps-là. » Donc ça lui donnait une lucidité en plus.
J'allais très souvent le week-end à Bockheim où il se passait toujours des choses... très intéressant.
Dominique Desbois, née en 1933, ancienne religieuse dans un ordre semi-contemplatif.
À l'origine, j'étais instite. Et puis, j'ai eu l'occasion de quitter l'enseignement où je trouvais qu'on était un peu peinard. Je voulais faire du social. Et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de diriger une maison maternelle qui s'ouvrait à Dinan. Et Dinan m'intéressait parce que je me disais, c'est pas loin de Bockheim, je pourrais y retourner facilement. Ce qui a été le cas d'ailleurs. On arrivait le samedi soir et on passait le week-end, on partait le dimanche après-midi. Je me rappelle qu'on arrivait vers 9h, 9h30 et que on se mettait dans une pièce qu'on appelait le trou et on préparait la liturgie ensemble. Si bien qu'à la messe, c'était pas assister à la messe, mais on allait vraiment célébrer ensemble quelque chose que nous avions préparé. À la fin aussi, Bernard avait instauré qu'il faisait très froid dans cette abbaye, elle était vraiment... On n'avait pas très chaud quand on sortait, et il avait préparé du viandox, et chacun dans un petit récipient en plastique, et ce qui permettait aux gens de se rencontrer, de parler un petit peu. La plupart, c'était des ruraux qui venaient simplement à la messe, mais qui pouvaient à l'occasion rencontrer ceux qui restaient davantage à l'abbaye. Les week-ends, il y avait un thème souvent, et Bernard faisait venir des gens qui... Il y avait Jean-Claude Barrault qui était venu, il y a Marc Oraison qui est venu, et Marcel Legault est venu aussi un jour voir ce qui se passait à Boca. Des gens ouverts de l'époque, quoi. Il y avait eu toute la crise moderniste aussi à cette époque, où la science venait contester un peu toute la dogmatique. La création du monde en 6 jours, tout ça s'était balancé avec l'évolution. Et l'Église freinait des cas de fer, parce que si on ébranlait quelque chose, elle voyait derrière la fragilité. Donc tous ceux qui ont été en recherche se sont fait crosser plus ou moins, quoi. C'était une époque dure. Et alors, c'est aberrant, mais dans le catéchisme, il y avait les péchés contre la foi. Et figurez-vous qu'un des péchés, c'était le doute. On n'avait pas le droit de douter de la vérité que l'Église nous enseignait. Donc on s'empêchait de douter, c'était vraiment une rébellion pas possible. Or, à Boca, quand on préparait, ben on pensait, on critiquait d'une façon positive et tout. Et là, j'ai appris à avoir une pensée personnelle, à oser une pensée personnelle. Alors, c'était une des grandes choses qui m'a attirée à Boca, c'était cette démarche intérieure qu'on pouvait faire.
Et c'est la question qui nous est posée à chacun d'entre nous, qui disons-nous qu'est le Christ ?
Chez nous, nous n'avons plus l'habitude d'appeler la célébration du dimanche la messe, parce que nous pensons que...
C'est une fête.
Oui, c'est une fête, mais qui comporte différents éléments, et à partir de dimanche en 8... Nous allons même transformer encore cette célébration du matin en une grande assemblée qui durera 2h30.
Radioscopie, Bernard Béret, 9 novembre 1972.
Vous voyez que les gens qui viennent, il faut qu'ils aient vraiment le désir de venir. Et s'ils sont simplement des curieux en passant, ils risquent d'être écartés par l'exigence de la chose. Une grande assemblée qui comportera pendant une heure un travail proprement dit sur l'enseignement des apôtres, comme on disait dans les Actes des apôtres, c'est-à-dire sur l'Évangile, sur sa signification, sur sa compréhension, qui comportera aussi un long temps de prière silencieuse pendant une demi-heure, où chacun pourra s'affronter à lui-même, se retrouver, avoir le courage du silence. C'est quelque chose qui est aujourd'hui assez difficile. Et alors, après ce travail, après cette prière silencieuse, nous aurons pendant une heure, le partage eucharistique, qui lui est la fête, où les mêmes thèmes seront repris, mais sur un mode beaucoup plus lyrique. Et cela, ça, c'est ce que nous vivons déjà depuis des années, où chaque dimanche, c'est un peu un happening, dans la mesure où ça arrive une fois, et ça ne peut arriver qu'une seule fois, puisque c'est en fonction des personnes qui sont là, de la vie qu'elles viennent d'accomplir ensemble, des événements qui viennent de se produire dans le monde, et où il n'y a plus d'église enseignante et d'église enseignée, il n'y a plus de pupitre du haut duquel on pourrait proclamer des vérités, mais où de l'assemblée, pour l'assemblée, par l'assemblée, se célèbre quelque chose.
Ce qui m'avait frappé aussi, c'est l'importance que Bernard attachait au corps à une époque où le corps était méprisé. Il y avait une chose qui m'avait frappée aussi, puisque Dieu nous connaissait, n'avait pas besoin de ça, on n'avait pas besoin d'exprimer nos prières et de lui dire nos besoins éventuels. Eh bien, Bernard nous faisait simplement murmurer un son. Chacun avait sa note, et c'est formidable l'harmonie qui pouvait ressortir de cette note exprimée par chacun.
Il a beaucoup développé le yoga, l'entretien du souffle, et on pourrait dire que c'était plus qu'un souffle partant de chacun, c'était, il disait, le souffle de l'esprit. Et quand on parle de communion de Bocquin, pour lui c'était d'abord, bien sûr, la célébration eucharistique, mais pas que ça. C'était la communion d'esprit, ce qui reliait les gens entre eux et qui permettait d'approfondir la parole de chacun. Et quand il y avait ces grandes liturgies magnifiques dans l'abbatiale, ça donnait envie d'aller le partager ensuite, et dans le cloître en particulier, et au repas devant des grandes tablées, les gens poursuivaient le partage.
1974, c'est une année clé.
Oui, c'est là qu'en fin de compte, Bernard Béret va se retirer. Il n'est pas préparé à gérer tous ces milliers de pèlerins qui viennent, enfin tous ces chrétiens. Il n'est pas du tout
Béatrice Lebel
formaté pour cela. Et quand il se retrouve dans cette mouvance politique, j'ai presque envie de dire malgré lui, on sent bien qu'il n'est pas à l'aise. Il va essayer de participer à la mutation de Bocquin avec une équipe de permanents sur qui tout le monde tombe, j'ai envie de dire, qui remplace la communauté monastique, qui s'occupe du fonctionnement, de la tendance et qui n'en peut plus, d'autant plus que Bernard Béret est pratiquement toujours parti et ça devient très très compliqué et Bernard Béret se retire en 1974.
Bocquin sans Bernard, ça a été dur. Ça a été vécu par les habitués comme un drame, quand même. Faut dire que Bernard, il y avait une solidité chez lui.
Dominique Desbois.
Qui faisait que c'était rassurant de discuter avec lui. Mais c'est un homme qui n'aimait pas les conflits, Bernard. Et il en avait tout le temps. Quand Jacques Girona et Pierre Cardona sont arrivés, ça a changé parce qu'ils amenaient un point de vue de la classe ouvrière un peu. D'autres gens, plus simples.
Pierre Cardona, né en 1949, a intégré la communauté en 1974. Le foyer de jeunes travailleurs pour lequel il travaille lui propose de venir donner un coup de main à Bocquin car l'association est confrontée à des problèmes de gestion et d'organisation.
Je décide de rester et j'ai fait appel à un de mes amis. L'idée, c'était de monter une équipe pour s'occuper de cet afflux de personnes. On est donc deux couples. On habite dans cette abbaye où il y a d'anciennes cellules de moines. Mais on a pris la décision de ne pas du tout être salarié de l'association. Donc, on a chacun un travail à l'extérieur de Bocquin.
Tribune Libre, FR3, 12 décembre 1975.
Eh bien, nous, c'est-à-dire la communauté qui vit à Bocquin, avons été touchés par ce message et nous avons décidé de le vivre à notre échelle. Comme beaucoup de communautés, nous partageons nos revenus et nous y puisons chacun suivant ses besoins.
Les préparations de ces rencontres nous prennent beaucoup de temps, mais nous avons quand même choisi de travailler à l'extérieur parce que nous pensons que c'est pas à Bocquin même qu'on va changer la société, qu'on va changer quelque chose aux rapports sociaux, mais plus sur les milieux de travail et sur le cadre de vie. Nous pensons que la société repose sur l'exploitation du travail manuel. Et nous voulons être là où se manifestent le plus les injustices.
Moi, je travaille en maçonnerie. J'ai passé un CAP de maçonnerie. Je voulais avoir une compétence de travail manuel parce que j'étais plutôt issu d'un milieu intellectuel. Mon ami Jacques, lui, travaillait comme chauffeur poids lourd, travaux publics. Et au niveau des rencontres du week-end, il est bien clair que comme il n'y a pas de salariés, tout le monde doit mettre la main à la pâte, on va dire.
Interactualité, 11 avril 1976.
Les contestataires de l'abbaye de Bocquen en Bretagne vont peut-être devoir mettre fin aujourd'hui à leur expérience. Depuis plusieurs années, moines et laïcs se livrent dans cette abbaye à un travail de recherche et de critique dont la cible est le plus souvent l'église traditionnelle. Cela n'est pas très bien vu, on l'imagine, par les catholiques et notamment par l'ordre des cisterciens, propriétaires des lieux, qui ont décidé, cet ordre a décidé il y a 2 mois, de reprendre possession de l'abbaye. Alors aujourd'hui, les moines contestataires tiennent une assemblée générale à Bocquen pour décider de ce qu'ils doivent faire à l'avenir. De Rennes, notre correspondant Henri Vincent.
Depuis plusieurs années, le couvent des moines de Citeaux était devenu un centre de contestation et un rendez-vous où des milliers de catholiques et de non-catholiques sont venus réfléchir et discuter des problèmes fondamentaux, Dieu, la vie, la mort. En 1974, Bernard Béret, le fondateur de la communauté de Bocquen, avait dû quitter l'abbaye. De la communauté des moines, il ne restait plus que le père Luzinski, entouré de quelques laïcs. Or, au mois de janvier dernier, l'ordre des cisterciens a décidé de récupérer le couvent pour y installer les religieuses de la congrégation de Bethléem. L'assemblée générale qui se tient aujourd'hui à Bocquen va décider du sort de la communauté, soit la dissolution de l'association, soit l'occupation sauvage des bâtiments, soit enfin une forme de collaboration avec les sœurs de Bethléem. Réponse dans la soirée.
Donc un jour, il voit arriver les premières sœurs de Bethléem. Donc il vient en stop, d'après les éléments que j'ai eus. Il y a 2-3 qui arrivent, dont la mère, parce qu'il y a toujours une abbesse. Ouais. Et donc la cohabitation est assez difficile. Hein. Ils essayent d'avoir des échanges, mais la communauté monastique qui vient là n'a pas forcément envie de discuter avec ces gauchistes.
C'est un ordre un peu particulier, proche, si j'ai bien compris, de mouvances traditionnalistes.
Alors, les sœurs de Bethléem, effectivement, il y a d'abord le mur de la clôture qui va être remis. Alors, il faut savoir qu'avec Don Alexis et Bernard Béret, il n'y avait plus de clôture. On n'a plus ce mur qui sépare les moines ou les moniales du monde extérieur. Là, ça va être fait. Assez rapidement, on va remettre ce mur. Et très vite, on fait savoir à la communauté de résidents, enfin surtout à l'association culturelle de Bocquen, parce que c'est l'entité juridique, qu'il va falloir quitter les lieux, et ça va se passer en septembre 1976, après une journée, voilà.
Il y a eu ces grands moments, alors la célébration de départ en 76, qui a été minutieusement préparée avec une foule immense, et en dehors de l'abbatiale, pour montrer justement qu'on pouvait aussi célébrer, en dehors du cadre d'une église, un moment de rupture, mais aussi un grand moment d'espérance.
Odile Durand.
C'était un nouveau départ. Comme dans la Bible, on peut dire que le peuple de Dieu se libère et va de chemin en chemin. Donc, ce n'était pas un moment triste. Et donc, il y a eu un éclatement. Parce qu'on avait dit, ça ne doit pas être une rupture, ça doit être un essaimage, si on peut dire, en petite communauté. Donc, il y a eu, en différents lieux, hein, il y a eu sur Rennes, Brest, Cherbourg, Lyon, enfin... Et Guy a proposé d'aller vivre avec une de ses communautés, à Lyon. Mais de là, il n'est pas resté cantonné. C'était une vocation à relier tout ce qui avait été fermentation à l'intérieur de l'abbaye. Donc il est parti avec son bâton de pèlerin et chacun d'entre nous l'a hébergé. Et il venait soutenir des groupes de recherche, des petites communautés. Il était à l'affût un peu de tout ce qui était avant-garde, si on peut dire, de ce qui permettait de dire il y a encore un sillon, quoi. Il y a encore quelque chose qui peut se faire.
Guy Luzinski, Bretagne Actualité, 4 juin 1977.
Alors, désormais, la communauté a un autre projet que l'animation de lieux d'accueil de la communion. Mais ce projet de notre communauté s'intègre, comme toujours, dans le projet plus vaste de la communion. Et la communion est en train de chercher à acquérir une maison où elle va continuer l'accueil qu'elle a pratiqué à Boquin.
Il y a donc la communauté, ceux qui vivent ensemble, et puis il y a la communion. Mais combien sont-ils aujourd'hui à se reconnaître dans cette recherche? La communion conserve son bulletin de liaison, les groupes de réflexion se réunissent régulièrement. Une permanence existe même à Saint-Brieuc, et la dernière assemblée générale n'a pas mis en relief de dissensions internes.
Je crois que la communion de Boquin, grâce à une certaine célébrité qu'elle a acquise, reste un signe d'espérance pour beaucoup de chrétiens, même des croyants, qui cherchent soit un nouveau type d'église, soit un nouveau type de société, un autre projet sur l'homme. Et puis nous entendons collaborer plus étroitement avec d'autres groupes de chrétiens ou d'incroyants qui cherchent dans la même direction.
Jusqu'à son décès en 1994, Guy Lujinski a choisi de vivre son monachisme dans l'itinérance. De son côté, Bernard Béret a rompu avec l'Église. Mais l'association culturelle de Boquin poursuit sa route. En 1978, elle a acquis un bâtiment en centre-Bretagne, la maison de Poulancre. Laïque et indépendante des confessions, elle inscrit sa démarche entre cheminement philosophique et tradition spirituelle.
À la dernière AG, il y avait eu une motion votée pour développer l'expérience de Boquin dans différents groupes hors les murs, en France. Et donc j'ai été amenée à créer un groupe à Brest à partir d'une petite manchette dans un journal Ouest-France faisant appel à ceux qui voulaient continuer à vivre cette expérience. Et étonnamment, j'ai reçu des appels nombreux de couples avec enfants qui souhaitaient se réunir. Et plus tard, quand la maison de Poulancre s'est animée, et puis on a participé à des chantiers adultes-enfants. Mais il y avait ce désir de tenter une expérience communautaire, pas au sens de communauté permanente, mais communauté un peu informelle, de transmettre aux enfants une foi vivante, un peu enracinée dans des actes concrets. Et je crois que Bernard Béret et les Assis, c'est ce qu'ils nous ont appris. C'est cet équilibre-là fondamental entre une aspiration à une autre vie et la façon de poser des actes pour la transformer, cette vie-là.
C'était Boquin, abbaye de gauchiste, deuxième partie. Du bouillonnement contestataire à l'explosion. Avec Bernard Béret, Pierre Cardona, Odile Durand, Dominique Desbois et Béatrice Lebel, autrice de Boquin entre utopie et révolution aux presses universitaires de Rennes. Merci au mouvement Boquin Mémoire Vivante 70-90 et à l'association culturelle de Boquin.
Prise de son, Benjamin Reyes et Ludovic Auger, mixage, Jean-Louis Deloncle.
Documentalistina Manuela Dubessy, chargée de programme Sandrine Chaperon, coordination Emmanuel Laurentin, un documentaire de Yves Deloison, réalisé par Anne Fleury. Retrouvez une histoire particulière sur franceculture.fr, le podcast est à écouter sur l'appli Radio France.